nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes, et oui, malgré la météo, le 30 juin, demain c'est le 1er juillet, il est 8h30, il est là toujours debout, enfin assis, Cortos, salut.
Bonjour Ben, bonjour à tout le monde, chers auditeurs de Radio Barthas.
Tu nous disais en antenne que ça c'était l'hiver en héros.
C'est exactement ça. Ouais.
C'est trop génial.
J'ai vu ça.
Au programme de cette matinale, nous sommes avec Brigitte, bonjour.
Bonjour.
Tu es technicien d'accueil au Parc National des Cévennes. Ça y est, c'est parti, la saison redémarre avec de belles choses encore cet été. Hein. Le parc, organise tous les ans, on en parle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, nous partirons au Pompidou, à Cévennat, petite distillerie d'huiles essentielles. Il y aura de la musique, comme d'hab, mais mon Corto, si tu veux bien, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas.
Le 29 novembre 2019 dernier, pardon, pour la première fois depuis des années, le Conseil d'État ne déboutait pas la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, de son recours sur la légalité du piégeage des oiseaux à la glu et décidé d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne. Le 17 mars 2021, cette dernière confirmait l'illégalité de cette pratique au regard de la Directive européenne de protection des oiseaux. Par un jugement rendu ce 28 juin 2021, le Conseil d'État vient donc de confirmer que la chasse à glu est illégale. La LPO a mené la bataille pendant plus de 5 ans avant de finir par gagner. Cette pratique est odieuse et non sélective et on compte à peu près, tenez-vous bien, 40 000 oiseaux tués chaque année. La bonne nouvelle, c'est que plus aucun gouvernement français ne pourra désormais utiliser le levier des dérogations pour contourner la directive européenne de protection des oiseaux. Déjà pour la saison 2020-2021, le président de la République lui-même avait suspendu la signature dans l'attente du jugement du Conseil d'État. Pour la Cour de justice de l'Europe, comme pour le Conseil d'État, plus haute juridiction française, le piégeage à la glu ne respecte pas la directive européenne pour les oiseaux parce qu'il n'est pas sélectif. Des oiseaux protégés se font également capturer. Et parce qu'il existe d'autres solutions pour imiter le chant des oiseaux utilisés comme appelant. Oui, parce que qu'est-ce que la chasse à la glu ? On a là la question. Le piégeage à la glu, en fait, consiste à encoller des baguettes pour attraper des oiseaux censés rester vivants afin de s'en servir comme appelant. Après être restés des semaines dans le noir, les oiseaux placés dans des cages accrochées aux arbres se mettent à chanter à la lumière, attirant ainsi leurs congénères qui sont tirés à bout portant. C'est tellement plus facile. Tous les oiseaux protégés ou non se font ainsi piéger. Ils se débattent dans la glu avant d'être détachés par aspersion de diluant type essence F4. À l'aide de caméras, la LPO a pu prouver que non seulement cette pratique n'est pas sélective, mais que de nombreux oiseaux, y compris protégés, sont blessés, voire tués pendant ces manipulations. Allez voir la vidéo sur YouTube, l'intolérable réalité de la chasse à la glu, c'est absolument terrible. Bref, la Cour de justice de l'Union européenne va même plus loin, en reconnaissant pour la première fois la nécessité de respecter la sensibilité animale. Ces attendus confirment que d'autres piégeages dits traditionnels sont de fait tout aussi illégaux. Eh ouais, dans le sud-ouest, on continue de piéger des oiseaux avec des filets et des matoles, des cages métalliques. Dans le massif central, on les écrase avec des pierres plates. Dans les Ardennes, on les étrangle avec des collets et on leur tire la queue pour les faire appeler. C'est absolument incroyable. Les traditions, qu'est-ce qu'on fait des traditions ? Des fois, c'est pas plus mal de l'oublier, n'est-ce pas ? Reste que maintenant, il va falloir appliquer ces interdictions et là, c'est des moyens dont on va avoir besoin. On se retrouve dans un instant, on parle des animations du Parc National des Cévennes. On écoute d'abord Blackbird, les Beatles.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, in to the line of a dark black night.
Un peu de magnifique chant d'oiseau, les Beatles, Blackbird, vous êtes bien en direct sur Radio Barthas, de retour en plateau avec Brigitte. La saison redémarre pour le Parc National des Cévennes avec un nouveau programme. Il est là, je l'ai entre les mains. Un été avec le parc. Alors aussi, on va donner quelques dates clés, on va parler des réglementations, etc. Mais d'abord, comme tout le monde, ça n'a pas dû être facile cette année.
Ben, il y a eu des moments un peu compliqués, évidemment, mais pour nous, ça a été plus facile que pour beaucoup d'autres, parce que télétravail et qu'on y arrive. Le terrain, ma foi, on a réussi à peu près à faire ce que l'on voulait, dans la mesure où on était le moins nombreux possible, et toujours inférieur à 6 personnes, bien sûr. Voilà, mais on s'en sort.
Alors, faire la programmation, donc voilà, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé cet été. Hein, et puis une programmation comme ça se travaille quand même quelques mois en amont.
Ah ben, on y travaille depuis novembre-décembre 2020. Hein, ça se prépare longtemps à l'avance. Et puis après, le montage du programme, les disponibilités des uns et des autres. Et puis, on scrute la jauge, les possibles, etc. Donc, cette année, par exemple, très peu d'animations en salle, parce qu'on ne savait absolument pas si on pourrait en faire. Les jauges, ben, on va pouvoir les remonter un petit peu, mais on a maintenu les inscriptions de bout en bout pour éviter de se retrouver coincé en dernière minute aussi. Enfin voilà, on avait quelques contraintes. Ma foi, on sort un beau programme de 134 animations, toujours gratuites, et sur tout le territoire, c'est ce qu'il faut.
Ouais, et puis le territoire est énorme. Ici, on a la chance d'avoir un terrain de jeu assez sympa.
C'est ça.
Justement, comment il se fait ce programme ? C'est un travail d'équipe ?
C'est un travail d'équipe. On est une petite équipe de 6. On définit ensemble ce qu'on souhaite faire, nos orientations pour l'année. Et puis après, bah, chacun travaille de son côté. Les techniciens accueillent sur les massifs, donc du coup, ce qui va permettre d'élargir complètement la palette, organisent les animations avec leurs agents, avec leurs partenaires, sur l'ensemble du territoire. Et puis après, bah, tout ça me revient, je compile, et puis je fais le montage. Et après arrivent les collègues pour monter la maquette, pour communiquer, enfin tout le travail de mise en forme derrière.
C'est ça, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, moi, ça fait quand même un petit moment que je vous connais, que je reçois des agents et de toutes les personnes qui travaillent au parc, un travail de com excellent.
Ah, je trouve aussi, ouais. Et puis depuis l'année dernière, donc dans le cadre des 50 ans, nous avions décidé d'insérer le magazine programme des animations dans le magazine du parc, le de Serres-en-Vallat. Et du coup, ça veut dire 40 000 foyers du territoire qui reçoivent ce programme chez eux directement. Ah ben du coup, nous avons continué parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup d'habitants du territoire qui découvraient, pour certains, parce qu'évidemment, tout le monde ne passe pas par un office de tourisme ou un relais d'information du parc, pour s'informer. Et du coup, ça a changé aussi le public de nos animations. Et ça, c'est très chouette également.
Alors, tu l'as dit, hein, il va s'en passer des choses. On fera quelques petits points de détail tout à l'heure. Et en plus, je suppose que comme l'année dernière, vous attendez un flux touristique important.
Alors, l'année dernière, je crois qu'on a été tous un peu surpris, entre guillemets, voilà, parce qu'effectivement, le mois de juillet, c'était le mois d'août, par exemple. Cette année, on ne se laissera pas surprendre. Je crois que tout le monde est sur le pied de grue ou de guerre. Je ne sais pas comment on dit, mais de grue, c'est mieux.
De grue, c'est bien. J'aime
voilà,
bien.
Moi aussi, j'aime bien. Surtout que c'est joli. Pour accueillir au mieux tous ces visiteurs qui ont un besoin de nature extrêmement important, mais qui en même temps n'ont pas toujours forcément les codes ou les bonnes informations pour se promener dans nos merveilleux espaces qui sont très beaux, mais qui sont aussi extrêmement sensibles. Donc on a vraiment essayé d'organiser la saison pour un bel accueil et pour une belle protection aussi du territoire et pour un bon partage des espaces, parce que ça aussi...
C'est important. Ouais. Ouais, justement, une signalétique qui s'adresse vraiment aux personnes qui ne connaissent pas le parc et qui ne savent pas comment ça se passe à l'intérieur d'un parc.
Dans la zone cœur du parc, évidemment, il y a une réglementation qui s'applique. Donc cette année, nous avons à la fois souhaité rajouter une information sur les items extrêmement importants du cœur de parc. Et en même temps, nous lançons plutôt une campagne de communication un peu décalée sur les règles qui s'appliquent en cœur de parc, de façon à ce qu'il y ait quelques phrases de choc qui permettent aux visiteurs de bien retenir le message, voilà, c'est extrêmement important, voilà.
C'est ça, là, on est à la fin du programme, hein. Faites pas cueillir en cueillant, chouette, pas de bruit, ne perdez pas les pédales, c'est-à-dire que ça, on peut pas faire du vélo n'importe où.
On peut faire du vélo sur toutes les pistes habilitées, on fait pas du hors-piste.
Et forcément, la circulation des véhicules. Bref, tout ça, c'est super bien fait, c'est clair. Donc voilà, on va parler des animations. Elles sont classées un peu, ces animations, en fonction du lieu et en fonction des partenaires.
Donc d'abord, le programme, il est par date et uniquement par date. Hein. On démarre du 5 juillet et on va jusqu'au 31 août. Du coup, on peut se repérer, on est dispo le 14 juillet ou on est dispo le 23 août. On va avoir directement les pages correspondantes. Après, ça va être par secteur géographique pour faciliter. Pour les habitants, ça va, ils se repèrent très bien. Pour le visiteur, du coup, il y a une carte centrale au milieu qui renvoie à certaines couleurs et qui permet de dire, tiens, quelles animations y a-t-il à 10 km autour de mon lieu de séjour, par exemple ? Là aussi, ça permet peut-être d'y aller, peut-être pas à pied, mais bon, ça réduit l'utilisation du véhicule. Et puis après, y a des petits pictos qui permettent de voir quel type d'activité on peut pratiquer.
Quand je disais partenaire, je me suis planté, parce que je voulais parler des atlas de la biodiversité, de Natura 2000, etc. Et ça, c'est plus des labels, entre guillemets, que des partenaires. Ça arrive de s'emmêler les pinceaux.
Tout à fait. Mais après, tu as raison sur les partenaires, puisqu'on a des animations qui se déroulent chez des bénéficiaires de la marque Esprit Parc National. Et ça, si c'est pas des partenaires, alors... c'est même des ambassadeurs du parc, je dirais.
C'est sûr. Alors justement, parlons un peu. On peut toujours participer à l'Atlas de la biodiversité. Alors, c'est quoi pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, et comment on fait, comment on participe ?
Alors, en fait, l'Atlas de la biodiversité, par exemple, on va prendre un qui est sur le secteur pas trop loin, à la Malène. Donc ça, c'est les habitants de la Malène avec la commune de la Malène, aidés à un certain moment par des agents du parc qui ont décidé d'avoir une vision claire de la biodiversité de leur commune. Ça permet plein de choses derrière, y compris de se dire « Ah ben non, là, cette zone, on ne construit pas » ou « Cette zone, on la laisse à l'état nature » parce qu'il y a telle population d'un animal particulier qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est fort possible d'un animal ou d'une fleur d'ailleurs, d'une plante. Donc, les animations des atlas de la biodiversité communale sont plutôt réservées aux habitants. Pour autant, pour montrer aussi à nos visiteurs ce qui se fait sur le territoire, on ouvre quelques animations qui sont menées par des agents du parc, cette fois, sur la période estivale. Donc, je crois qu'il y aura au moins une animation ABC à la Malène cet été. Je l'ai pas en tête là tout de suite. Oh, c'est pas bien, Brigitte.
Non, mais de toute façon, vous pouvez tout retrouver sur seven-parc-national.fr, évidemment.
Et encore plus sur la plateforme destination-parc-national.fr.
Les liens seront sur notre site dans un instant. Et alors, évidemment, puisque comme c'est vaste et je comprends que tu ne peux pas retenir toutes les dates, c'est impossible, il y a toujours les maisons du parc et les maisons du tourisme qui accueillent.
Tout à fait. Donc, sur le territoire, trois maisons du tourisme et du parc vous accueillent donc à Florac, vous accueillent également à Genolac, en partenariat avec l'office Seven Tourisme. Et puis, à la Maison de l'Égual, au col de la Sérérède, en partenariat avec l'office Montégual-Cosse-Cévennes. Et puis, bien sûr, tous les relais d'information du parc sur le territoire, les bureaux d'information touristique en général.
Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir, comme on le disait, dire tout ce qui se passe, mais quelques dates clés peut-être. Alors, avec en premier lieu un projet qu'on aime beaucoup et dont on est partenaire, le projet Vadrouille.
Oui, alors là, je vais te laisser développer un petit peu, parce que la radio, ça te connaît.
En fait, oui, donc le projet Vadrouille, pour ceux qui n'auraient pas écouté la matinale de la semaine dernière, ce sont des balades sonores, en fait, que vous allez faire. Il y a sept points sonores que vous allez faire sur le Mont-Lozère, du côté du Blémard, en fait. Et sur 7 ou 20 kilomètres, vous pourrez choisir, vous aurez des points avec, pendant 5-6 minutes, ils vont vous emmener dans une balade sonore et vous emmener, on l'a fait demain. Donc j'avoue que pour l'instant, on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre. Mais en tout cas, il y a un événement le 10 juillet.
Tout à fait. Donc là, on va faire l'inauguration du coup, ce qu'on appelle une sortie de résidence qui aura lieu au pont de Montvert, donc le 10 juillet. La compagnie, donc lundi soir, qui organise cet événement de balade sonore, présentera les capsules. Et donc, on pourra s'installer dans un petit salon, à ciel ouvert certainement, où on pourra écouter les capsules. Ça, c'est pour ceux qui préféreraient ne pas faire la randonnée ou qui n'en ont pas la possibilité. Et puis après, il y a d'autres dates qui sont prévues au cours de l'été où ils présenteront également leurs capsules. Je crois qu'on a un événement qui aura lieu à Florac le 13 juillet, à Saint-Laurent-de-Trèves, au labo de Masmejean et puis aussi au refuge à la station du Mont-Lozère. Enfin voilà, vous découvrirez tout ça sur le programme de façon plus complète avec les dates et les horaires.
Et nous, on y sera le 10 juillet puisqu'on fait un plateau, un petit plateau assez sympa. Et on les embrasse d'ailleurs, ils sont extraordinaires. Une autre date, le 23 juillet, c'est une soirée lunaire à travers le parc.
Tout à fait. Alors depuis plusieurs années, nous essayons de proposer des soirées nocturnes, comme vous avez pu le voir, mais également, on s'est dit, mais pourquoi pas soirée lunaire ? Parce que c'est aussi un moment où on peut aller se balader sans autre lumière que l'éclairage naturel et suffisant de la lune. Dès qu'on a adapté les yeux, évidemment, mais ça va très très vite, en fait. Et du coup, cette année, quatre événements qui auront lieu sur tout le territoire du parc, depuis Générargue, chez un bénéficiaire, le parc Parfum d'Aventure, en passant par Le Vigan, Bagnoles-les-Bains, Quézac, et à chaque fois avec des thématiques un petit peu particulières. Ça peut être de la balade, ça peut être du conte, ça peut être de l'observation, ça peut être les trois. Voilà.
En tout cas, c'est les quatre événements en même temps, et c'est vrai qu'on l'a devant les yeux. Bon, il faut choisir.
Oui, puis bon, il y a aussi la distance. Hein. C'est sûr que Générargue, j'ai très envie, mais en partant de Florac, ça va être un peu chaud. Donc voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est vraiment le plus. Enfin, c'est des événements qui en général sont remplis assez rapidement. Ouais.
Alors, comme chaque année, vous refaites appel à des saisonniers.
Oui, dans les maisons du parc habituellement. Mais cette année, nous avons une expérimentation, quelque chose que nous n'avions jamais fait. nous avons recruté déjà des agents saisonniers de terrain qui vont accueillir les publics directement sur les sites sensibles du cœur de parc. Donc ils vont être répartis en binôme. Nous aurons donc deux agents sur le Mont Lozère, deux agents sur les Goales et deux agents sur quelques sites bien particuliers du Causse-Méjean. Voilà, qui vont renseigner immédiatement les publics en situation de balade, de pique-nique, de sortie familiale sur le terrain.
Job de rêve.
Job de rêve, mais pas si simple que ça, parce que leur travail, leur mission va consister aussi à être médiateur un petit peu pour les utilisateurs de l'espace. Mmh. Évidemment, on pratique de la randonnée, on est dans des activités de loisirs, c'est très chouette. Mais il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, des bergers qui sont en estive sur tous ces sites dans le parc, notamment sur les Goales et sur le Mont Lozère. Ces bergers qui ont besoin d'une certaine sérénité pour faire paître leurs troupeaux dans de bonnes conditions. Et évidemment, les parcours d'estive sont souvent en proximité des GR, des PR. Donc beaucoup de gens susceptibles de croiser ou de traverser, malheureusement, les troupeaux.
Oh, transition toute trouvée, puisque qu'est-ce que c'est bien fait. Oui, donc justement, une formation pour les, bah, notamment pour les saisonniers, mais voilà, qui quelques conseils pour comment on dirait, pas se protéger, mais en tout cas faire attention et avoir le bon comportement face à des chiens de protection de troupeaux. Notamment les patous, même si on ne peut pas dire les patous. Mais
On dit les patous parce que c'est ce que les gens ont dans la tête en règle générale, les beaux chiens blancs, Belle et Sébastien. Mais ce n'est pas que ça. Il existe d'autres races en France. Alors, dans notre région, pas encore énormément, mais enfin, des bergers d'Asie commencent à être assez présents. Et donc, du coup, ils ne sont pas obligatoirement de couleur blanche. Ils peuvent être plutôt foncés. Donc, bon, il faut aussi les repérer. Et donc, pour faciliter le gardiennage de leurs troupeaux, enfin, la protection de leurs troupeaux, les bergers souvent font recours à des chiens de protection, donc dits patous. Ces chiens, eux, n'ont pas du tout pour mission de garder le troupeau, mais de les protéger contre d'éventuels prédateurs. Du coup, quand un randonneur arrive en proximité d'un troupeau, ben, en général, le patou se signale. Il lui dit « Ouh, je t'ai vu !» et il aboie. À ce moment-là, il faut lui montrer qu'on a compris. « Oui, oui, on sait que tu es là. On a compris qu'il y avait un troupeau plus ou moins loin. Ça dépend de ton angle de protection. » Je m'arrête, je montre que je t'ai vu. Si j'ai des bâtons de marche, je les range dans le sac pour te montrer que je suis pas du tout agressif. Moi, je randonne, c'est tout, voilà. Et puis, je passe en essayant de contourner le troupeau. Et surtout, surtout, ne pas s'affoler si le chien arrive vers nous en courant un peu. Parce que bon, s'il n'a pas la queue entre les jambes, ça va. C'est juste qu'il vient dire bonjour et qu'il a besoin de nous sentir. Voilà. C'est impressionnant, je suis d'accord. Ben moi-même, je suis impressionnée dans ces cas-là. Mais maintenant, j'ai compris. Je mets un t-shirt, un petit sweat, enfin quelque chose entre le chien et moi. Mais je le laisse s'approcher. Je lui parle gentiment. Je ne m'énerve pas. Je garde les épaules bien détendues. Voilà, c'est facile à dire. Après, il ne faut surtout pas courir. Il ne faut surtout pas s'énerver. Enfin, voilà. Et n'avoir aucun geste agressif. Et en principe, ça se passe bien. En principe, parce que évidemment, je suis pas dans la tête du chien, ça, mais c'est les comportements de base. Voilà.
En tout cas, les animations commencent dès ce lundi 5 juillet.
Hein. C'est ça.
C'est parti. Ouais. Alors évidemment, auditeurs, auditrices, vous avez toutes les informations sur Destination, c'est ça, destination.cévennes-parcnational.fr.
Alors attends, je relis parce que voilà, c'est destination.cévennes-parcnational.fr, tout à fait.
Puis évidemment, les maisons du tourisme et du parc à Florac, à Génolac et au col de la Sérérède. Merci Brigitte.
Merci.
Je suis technicienne accueil au parc national des Cévennes. Vous rappelez que le projet Vadrouille au pont de Montvert, dont nous sommes partenaires avec Radio Barta, ce sera le 10 juillet à 18h au jardin du temple. On part au Pompidou dans un instant. On écoute d'abord les oiseaux de passage. Je crois que c'est ça que j'ai mis, Brassens. Ouais, c'est ça.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque. Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant ô les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Idée d'un auditeur, Georges Brassens, les oiseaux de passage. On part au Pompidou dans une petite distillerie. C'était un reportage qui avait été fait il y a quelques mois. On écoute ça tout de suite.
Hello. Tu vas bien?
Oui, et toi?
Mais super.
Ça fait un moment.
Oui, ça fait un bon moment, exactement.
Oui, ça sent toujours aussi bon ici.
Ah oui, ça. Il avait aboyé, donc il n'y aura que la destination à faire. Ouais. Donc, si je viens, voilà, il va chacun aussi pour ce matin, venir et tout. Mais voilà.
Salut Michel.
Voilà, parce qu'on va faire des chorégraphies quand même.
So you think you can tell heaven from hell?
Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Quand nous habitons dans un très grand bâtiment, j'ai dédié une pièce d'environ 10 mètres sur 5 comme atelier, on va dire. Atelier avec les moyens du bord. Donc on voit plein de bocaux, on voit du miel à mûrir. On va faire notre récolte de miel. Après on le mettra en pot. Nos confitures ici, on fait du jus avec nos fruits de jardin et on distille. Voilà, donc dans cet alambic de 55 litres, voilà, donc quand c'est broyé, c'est une vingtaine de kilos de plantes. Non broyé, 15, 18 kilos, peut-être 20 si je tasse un peu. Et donc pour ce lavandin, ça m'a donné quasiment 500 millilitres. Le rendement d'une vraie lavande est beaucoup plus petit. Donc d'habitude, pour 100 kilos de lavande sauvage, selon ce qu'on coupe avec plus ou moins de tiges et qu'on laisse sécher ou pas, on va avoir un litre, ou on va dire un kilo, ou un litre 100, un litre 200 maximum. Et on a au moins trois fois plus avec des lavandins. Donc c'est un alambic qui est plutôt rectangulaire. D'un côté, on va mettre les plantes par le haut. Et donc la vapeur va passer dans un deuxième endroit où il y a des tubes qui font le réfrigérant, où passe l'eau froide. Il y a plein de robinets, il y a plein de petits trucs pour pouvoir fonctionner, sortir l'huile, enlever la condensation, qu'on verra tout à l'heure quand on va faire vraiment la distillation. Là, comme j'ai déjà fait une distillation, je vais d'abord enlever les plantes. Dans la majorité des alambics, on trouvera une grille qui fait une séparation entre l'eau de condensation et les plantes pour que les plantes ne soient pas dans l'eau. Là, tu vois les tubes où vont passer, il y a un circuit d'eau froide. Donc la vapeur va traverser ces tubes, passer à côté, et donc se refroidir et sortir par le bas. Là, je mets les plantes. Donc, ce sont des grosses plantes avec pas mal de tiges, de cater citronné.
Tu es en train de remplir l'alambic là.
J'ai un genre de marteau pour taper un peu.
Tasser.
Il faut bien, bien tasser. C'est aussi important pour que la vapeur ne passe pas trop vite à travers les plantes et crée des corridors sans passer par toutes les plantes. Alors c'est super important que ce soit en verre ou en métal de bien fermer, parce que la majorité des plantes que je distille donnent leur huile dans les premières 10 minutes de la distillation. Si t'as pas bien, si ton joint dans ton alambic en verre est mal mis, ou qu'il y a une plante de travers et que la vapeur puisse s'échapper, ben il y a toute la récolte qui part en l'air. Ça sent super bon dans la pièce, mais on sait qu'il y a un problème. Donc si ça m'arrive, ça m'est arrivé, hein, tout ça, on sent une odeur énorme, c'est bon, et pour moi c'est tout de suite feu rouge, c'est clignotant, c'est danger. Parce que c'est difficile à rattraper quand tout est chaud, de ressortir, de recommencer. Il y a plein d'erreurs qu'on peut faire. Il faut rester concentré. Parce qu'il y a un système de refroidissement qu'il faut maîtriser. C'est de l'eau qui coule. Si on le ferme trop, ben, tout commence à chauffer. C'est pareil, c'est toute l'huile essentielle qui part. Condensation, s'il y a trop de condensation dans... et que ça commence à mouiller les plantes, ben, et l'huile essentielle et l'hydrolat auront une mauvaise odeur. Comme je fais sur place plutôt des petites productions qui rentrent dans mes produits finis, je peux me permettre de distiller dans des petits volumes. Comme on est plus dans l'aromathérapie, on fait des huiles de massage, on fait des synergies, des mélanges d'huiles essentielles. Il y a pas mal de mes mélanges où je mets par exemple des produits pour les détox, où je peux mettre la livèche aussi en huile essentielle, ou contre le cholestérol. Ou pour des produits pour le bien-être, comme des sprays d'ambiance. Si je mets ma lavande, donc mon hydrolat de lavande, ça change tout. Parce que je ne peux pas trouver, même directement par les distillateurs, la même qualité d'hydrolat que ce que je fais en petit. Donc là, j'ai bien fermé.
utilisé les trépieds qui chauffent en bas. Et j'ai rajouté des feux, hein, enfin des lanceurs de flammes. Et ça me donne une puissance supplémentaire. Et là, ma vapeur arrive comme il faut. Donc là, ça va mettre une dizaine de minutes parce que ça doit réchauffer. Et on va voir, on va décrire la suite des opérations. On a donc un petit alambic rectangulaire en inox. Le matériel pour distiller, il y a beaucoup de discussions. Hein. Ça date des siècles. Au début, les alambics étaient plutôt en cuivre. Mais le cuivre agit avec pas mal de plantes et pas mal d'huiles essentielles et peut donner des couleurs. Par contre, il a un grand avantage, c'est quand on distille simplement pour faire des hydrolats, il donne un hydrolat qui est prêt tout de suite. Avec tous les autres matériaux, donc même le verre que je trouve moi de plus noble, parce qu'il n'y a aucune interaction du métal avec les plantes et les huiles essentielles, mais le verre peut se casser. Mais même le verre, quand on a distillé, l'hydrolat n'est pas prêt tout de suite. Il faut attendre quelques semaines pour que les mauvaises odeurs de la distillation partent, pour qu'on retrouve l'odeur de la plante. Mais quand on le fait en cuivre, on l'a quasiment tout de suite. Mais le cuivre est difficile à réparer quand il y a des problèmes. Parfois, c'est réparé avec du plomb. Donc, je dis, faites attention quand vous voulez faire votre propre petit alambic, même si ça a l'air tout beau en cuivre, de vérifier certains détails. L'inox est le matériel le plus moderne, qui n'est pas neutre non plus, mais qui est le plus neutre, on va dire, de ce qu'on peut trouver en matériel costaud, qui dure dans le temps. Donc on a cet alambic, on a mis les plantes, on a bien fermé le couvercle. On a donc une entrée d'eau que j'ai mis vers mon générateur de vapeur qui permet d'amener de l'eau pendant que ça chauffe. Et ça veut dire qu'on peut chauffer avec cet appareil. Je peux en principe distiller 12 heures d'affilée si je veux.
Oh, ça coupe, voilà, c'est comme ça, c'est net. Merci beaucoup, Corto.
Eh bien, de rien, avec plaisir.
On se retrouve évidemment lundi, merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec les Beatles, le morceau s'appelle Something, une compo de George Harrison. Prenez soin de vous, à lundi, ciao. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Asking me